Vous êtes à l'écoute d'une émission chrétienne intitulée « Chemin de vérité ». Vous êtes invité à suivre chaque semaine avec nous des études bibliques de divers sujets d'importance spirituelle. Le sujet de ce jour est « Le salut par la foi ». Un principe biblique qui est bien connu est le fait que le salut est par la foi. Plusieurs passages l'affirment. Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 5, verset 1. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Galates 3, verset 26. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 3, verset 36. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, versets 8 et 9. Malheureusement, ce principe bien connu n'est souvent pas bien compris, surtout parce que beaucoup de personnes affirment que l'on est sauvé par la foi seule. Il semble que ce problème remonte au moins jusqu'au réformateur Martin Luther, qui, en faisant sa traduction des Écritures en allemand, a même ajouté un mot à ce que l'apôtre Paul avait écrit en Romains 3, verset 28, pour lui faire dire « L'homme est justifié par la foi seule ». Or, ce n'est pas ce que Paul avait écrit. En effet, Paul n'envisage jamais la foi comme étant seule. Il dit en Galates 5, verset 6, que ce qui a de valeur, c'est la foi qui est agissante par la charité. En réalité, la Bible attribue le salut de l'homme à plusieurs éléments. Selon Actes 11, verset 18, l'homme est sauvé par la repentance. Dans ce verset, quand les chrétiens juifs ont appris les détails de la conversion des premiers non-juifs, ceux de la maison de Corneille, ils ont dit « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. » Ils ont donc parlé du salut par la repentance, sans mentionner la foi ou le baptême. En Matthieu 10, verset 32, Jésus dit « Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Le Seigneur ne mentionne pas explicitement la foi dans ce passage et il ne se réfère pas du tout à la repentance. L'apôtre Pierre écrit en rapport avec l'eau du déluge au temps de Noé. Cette eau était une figure du baptême qui vous sauve à présent et par lequel on ne se débarrasse pas de la souillure du corps, mais qui est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu par la résurrection de Jésus-Christ. 1 Pierre 3, verset 21. Remarquez que l'apôtre dit que le baptême sauve, mais ne mentionne ni la foi, ni la confession, ni la repentance. Soyons très clairs, nous ne suggérons pas pour un instant que ces différents versets constituent une preuve que la Bible se contredit. Pas du tout. Il faut simplement comprendre un principe élémentaire de l'interprétation. C'est qu'il faut prendre en compte tout ce que la Bible dit à l'égard d'un sujet, au lieu de se cantonner sur un seul verset, ou les versets qui affirment un seul aspect d'une vérité. Il faut écouter aussi les autres passages qui complètent notre compréhension. Si nous ne coupons pas la parole à la Bible, mais que nous lui permettons d'aller au bout de ses idées, pour ainsi dire, nous verrons que plusieurs choses sont nécessaires à notre salut. Du côté de Dieu, nous sommes sauvés par sa grâce, par la mort de son Fils, par sa parole, etc. De notre côté, il nous est demandé non seulement d'avoir la foi, mais aussi de nous repentir de nos péchés, de confesser devant les autres que nous croyons en Jésus, et de nous faire baptiser. Il y a même un sens dans lequel nous sommes sauvés par les œuvres. Dans le seul verset de la Bible qui emploie l'expression « la foi seule », Jacques dit « Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. » Jacques 2, verset 24. Ce verset peut nous scandaliser si nous n'observons pas une autre règle fondamentale de l'interprétation. il faut tenir compte du contexte de ce qu'on lit. En effet, lorsque Jacques dit ici que l'on est sauvé par les œuvres, et que l'apôtre Paul dit ailleurs que l'homme n'est pas sauvé par les œuvres, il faut remarquer que les deux auteurs emploient le terme de manière différente. Jacques parle des actions qui montrent que notre foi est réelle et vivante. Paul parle d'autre chose, comme nous le verrons. Qu'est-ce que Paul veut dire donc quand il dit que l'on est sauvé par la foi? Pourquoi le salut est-il forcément par la foi? Et comment faut-il comprendre l'expression « par les œuvres » Romains chapitre 4 est un passage clé en ce qui concerne le salut, la foi et les œuvres. Avant de l'examiner, résumons ce qui le précède dans cet épître de l'apôtre Paul. Au chapitre 1, Paul déclare que Dieu condamne le monde païen pour son péché et son idolâtrie, et que cette condamnation était selon la justice. Dieu n'était pas injuste quand il jugeait les païens. Au chapitre 2, Paul démontre que les Juifs étaient eux aussi des pécheurs et n'avaient pas gardé la loi écrite que Dieu leur avait donnée par Moïse. En Romains 3, l'apôtre arrive à la conclusion qu'il n'y a point de juste, pas même un seul, mais que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, versets 10 et 23. Paul annonce ensuite une bonne nouvelle. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour ceux qui croient. Romains 3, versets 21 et 22. Ayant démontré le péché de tous les hommes, l'apôtre est prêt à expliquer comment l'homme peut redevenir juste aux yeux de Dieu. Dieu punit nos péchés par la mort de Jésus, afin de satisfaire aux demandes de sa justice et d'éclairer juste ceux qui croient en Jésus et à son sacrifice. Aucune provision n'est faite pour justifier ceux qui refusent de croire. Comme tous sont coupables de péché, pareillement tous ont la possibilité d'accéder à cette justice de Dieu, à condition d'avoir la foi en Jésus-Christ. Cette justice est sans la loi. C'est-à-dire, elle ne dépend pas de la loi qui avait été donnée aux Juifs. Le fait que les Juifs tenaient obstinément à l'ancienne loi était un problème. Cet attachement à la loi empêchait beaucoup d'accepter l'Évangile. Paul dit en Romains chapitre 10, verset 3, que les Juifs avaient bien du zèle pour Dieu, mais ne reconnaissant pas la justice que Dieu voulait leur attribuer en Christ, et cherchant à établir leur propre justice, il ne se soumettait pas au plan de Dieu. Quant à lui-même, Paul dit en Philippiens 3, versets 8 et 9, « J'ai renoncé à tout, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. » Pourquoi était-il inutile de chercher la justice dans la loi de l'Ancien Testament? Parce qu'il fallait la garder parfaitement. Paul rappelle ses lecteurs en Galates 3, verset 10, que la loi avait dit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Jacques est tout à fait d'accord avec Paul. Il dit « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère », a dit aussi, tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Jacques 2, versets 10 et 11. Je n'arriverai pas à être compté juste par Dieu par la perfection de mon obéissance. Il est trop tard. J'ai déjà commis bien des péchés. Que ce soit la conformité parfaite à la loi mosaïque, ou bien d'autres actes par lesquels je chercherai à gagner le salut comme un salaire. Mes œuvres ne peuvent pas me rendre juste quand j'ai déjà violé la loi. Je peux par contre avoir une foi vivante en Jésus-Christ qui est mort pour moi, une foi qui plaît à Dieu. Le salut doit donc être par le principe de foi et non par le principe des œuvres. Romains 3, versets 27 et 28. Pour soutenir sa déclaration que l'homme peut être justifié sans la loi, Paul cite en Romains 4 l'exemple d'Abraham. Il demande aux Juifs, « Qu'est-ce qu'Abraham, notre père selon la chair, a obtenu? A-t-il obtenu la justification par les œuvres ou par la foi? Son exemple, qu'est-ce qu'il nous apprend? » Paul présente la possibilité qu'Abraham fût justifié par les œuvres, mais il la rejette aussitôt. En effet, si Abraham fut justifié par ses œuvres, il aurait eu droit de se glorifier. Dieu, qui a toujours voulu que l'homme soit humble, aurait-il établi un système qui inspire en l'homme l'orgueil spirituel? Mais en plus, Paul souligne que l'Écriture dit clairement « Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice ». Cette phrase se trouve en Genèse 15, verset 6, où Dieu avait promis à Abraham, déjà vieux et encore sans enfant, une descendance nombreuse. Cette citation est très importante puisqu'elle affirme au sujet d'Abraham exactement ce que Paul enseigne comme principe général. Dieu déclare les hommes justes au vu de leur foi. Comme nous voyons ailleurs, cela est basé sur le sacrifice de Jésus-Christ et conditionné sur l'obéissance à l'Évangile qui est nécessaire pour que la foi soit qualifiée de vivante. Paul poursuit en Romains 4, versets 4 et 5. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. En fait, les œuvres, telles que Paul utilise le terme dans ce passage, excluent la grâce. Celui qui travaille mérite le salaire de ce qu'il fait. Ce n'est pas un don ou une grâce. Par contre, celui qui n'accomplit pas le travail demandé n'a pas droit au salaire et ne le recevrait qu'en tant que don. Puisque le salaire que l'on considère dans ce texte est la justice, le fait d'être déclaré juste par Dieu, il n'y a qu'une seule « œuvre » entre guillemets qui puisse le mériter. C'est le manque total de péché. Celui qui fait une œuvre, ici, est l'homme qui accomplit la totalité de ce que demande la loi de Dieu, sans aucune faute. Ce n'est que d'un tel homme que l'on pourrait dire qu'il reçut la vie éternelle comme chose due. C'est de lui seul qu'on pourrait imaginer que Dieu lui devait le salut. Quand Paul se réfère dans ce passage à « celui qui ne fait point d'œuvre », il s'agit simplement de l'homme qui n'accomplit pas avec succès tout ce qui lui est demandé. Ce n'est pas un homme paresseux qui ne fait aucun effort. Ce n'est pas un homme rebelle qui refuse de se soumettre à Dieu. Ce n'est pas l'homme pécheur et impénitent. C'est l'homme faible, comme toi et moi. L'homme qui essaye de faire la volonté de Dieu, mais qui échoue. Une telle personne doit se confier au Dieu qui justifie l'impie. Abraham fut dans le même camp. Il crut à Dieu, et sa foi lui fut imputée à justice. Ce verset souligne que Dieu visait la foi d'Abraham, la foi manifestée dans une vie obéissante, et non pas la perfection morale qu'Abraham n'avait pas. Quelle est la foi que Dieu accepte? Dieu accepte-t-il n'importe quelle sorte de foi? Comment la foi qui sauve se manifestera-t-elle? Nous n'avons pas encore fini de traiter ce sujet très fondamental. Ne manquez donc pas de suivre cette émission la semaine prochaine. Yeah.